put a spell on you.
Des moments comme ça dans la vie. Bon, par exemple, on rentre chez soi un peu plus tard que promis. C'est-à-dire, on avait promis de rentrer à 9h et on rentre à 11h. On n'a pas appelé, on n'a pas prévenu, voilà. On arrive, on commence à s'excuser, bon. Et on nous dit « Oh mais en plus t'as bu, mais t'es saoul !» Et on n'a pas bu, je veux dire pas une goutte. Et on dit « Mais non maman, ou qui que ce soit d'autre, ça va pas, hein, j'ai pas bu !» Et ce genre de choses. Et soudain, on réalise, on comprend clairement qu'on se conduit comme si on était saoul. C'est-à-dire, plus on se justifie, plus on s'indigne, plus on ressemble à un mec saoul. Et même ça, on le comprend déjà, mais ça ne change rien, on ne peut rien faire. Bon, avoue que tu as bu et puis va te coucher, pourquoi te fatiguer comme ça, on nous dit. On marmonne entre ses dents, mais j'ai pas bu. On fait un geste de la main et on s'en va, effectivement, se coucher. Qu'est-ce qu'on pourrait bien aller faire d'autre? Et on n'a pas à se sentir offensé par qui que ce soit, parce qu'on se conduit exactement comme si on était saoul. Je dis ça pour qu'on comprenne que je ne comprends pas moi-même la raison pour laquelle je vais maintenant raconter tout ça. Il semble qu'il y ait beaucoup de raisons, mais dès qu'on en nomme une, on se rend compte aussitôt que ce n'est pas la bonne, ou pas la principale, ou carrément... Bon... On va considérer que tout ce que je raconte, je le raconte sans raison. Et vous, vous écoutez pour la raison que vous êtes venu écouter, ou simplement parce que ce n'est plus possible maintenant d'y échapper, ou pour une raison personnelle quelconque. Je ne sais pas.
Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique proposée par la compagnie Les Montures du Temps. Anaïs n'est pas là aujourd'hui, mais nous prenons la relève. Marie-Laure Communal,
bonjour
Marie.
Bonjour.
David Bescon,
bonjour.
Et moi-même, Florent Fichot, bonjour. Aujourd'hui, nous allons principalement faire tourner l'émission autour d'un jeune auteur russe qui s'appelle Evgeny Krychkovets, à l'occasion d'une représentation d'un spectacle qui se joue ce soir, demain et dimanche à Vez, au petit théâtre sympathique de Midland. Nous vous en dirons plus tout à l'heure. Nous allons aussi vous présenter un spectacle du comité d'entreprise de EDF à l'occasion du Téléthon. Nous allons vous parler de ça maintenant, juste après cette petite musique. À tout de suite. Get funky in the place.
get funky if you pay. This pathetic dope addicts have to be abused. It's the same, what a thing to be a prostitute. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole ball with big dope feet. Makes you feel real bad every time I see another bum old brother sleeping on the street. In the corner, in the morning, every night and day. It's a pity, so embedded, people try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe to do the right things, or soon you'll see. Life ain't no more joke, it's a serious thing. When you're dealing with an answer that you can't explain. New York City is a place of mysteries. Drug addicts, dope dealers, taking over the street. That mayor's always saying, why the hell do we pay for what? Boy, they break the laws and get a couple of days. No sense trying to help, it's really no use. Think the world's messing up, let me tell you the truth. All rocks trying to pop with no respect. Niggas waiting at the station for the big paycheck. Homeboys going vacant on Thursday night. Girls waiting in the house for Mr. Right. Kids going to school just to be a fool. Never wanna learn to work just to go to a few. And it's the funky beat, and it's the funky beat. And it's the funk, and it's the funky beat. Yeah.
This is the bellow they call the rail bell. The rock, so with the thrill and that a shock is spell. When the shake up kick, the wakes you up in the morning. Gotta rape with the rhythm like a number one groaning. MC quick, just to make you peanut butter. Shock with the rhythm, I'm a number one undercover. Bring it up, just shake it up, rodeo. Bring it up, just shake it up, rodeo. I'm the melody down with the funky sound that can make you break with my diamond studded crown. Just so making you dip like a little bit of dive, like a rat, just so making you hide. Rock on to the break of dawn. Just freaking, yeah, baby. Just freaking, yeah, baby. Like a little jelly bean, I'm a sweet like a candy cane. To make you get down, this is number one stain on the train. Just moving like a stage on, just breaking up, yeah, yeah. Stage on, like a roller coaster ride, like a make you bump. Just grooving with the rhythm as you shake your rump. You got the a rock, rock, you don't stop. The baby, yo, you got it out, rocker, you don't stop. Just hip hop today, say I'm doobie doo. Yeah, Scooby Doo, what you wanna do, crew? Just freak out, yo, girl, baby. Just freak up, yeah, yeah, baby. Drink it up, dear, I know, my dear. I can rock you out this atmosphere. Like a gangster, prankster, number one bankster. Got the much cash to make you thank you. Rock on, this is the break of dawn. Break it on, keep it on, keep it on. I know ZZ, that can rock quick. I like an icon of class, add your rhythm to the stick. Just a rock on like a finger lick. Finger popping, hop popping, don't stop. Bunny rock, you don't stop. That long fingernail at the end of my tip of my pinky cocaine, make it slip on my lip. Just make you freak when a panty wetty with slip. Rock a little pat to the dapple, making my hip. Shake, shake, rock, body rock, a hip and a hop. Like a
RPM's my
nose, don't care about some rhythm that breaks. Because the music is down and when your body wants to shake. Got a hip hop a little baby dog, get down. Let the rock just shock your tone. Just break it up, shake it up, yeah, baby. Cause the groove just rocks like a little shady. Just shade it up with the glasses. Or make it on with the serious passion. Get the melody quick, get the melody sound. That'll rock it quick with the number one crowd. I can get up on the groove to make you shake down. Cause the beat from the depths of hell make you get down. Rock on to the beat. Freak it on with that kid, Janique. Just check it out. Check it out. I said I broke into a Dustinville, yeah. And then I shot across Topper Hill. I went to chill, yeah. Break it up, Cypress Hill. I shake it up with the writings on the wall.
So get down, get down.
Just damn it up. I rock on, you don't stop. Just damn it up. I rock on, you don't stop. The beat boys rock on, you don't stop. Freak it on, break down, don't stop. From the depths of hell, Rockwell, Romel. Rock on to the beat, beat. Candy cane, kid, you
shake,
shake
it out.
Sweet, cause I'm a jam up, hip hop, I'm making the tip top. Shake on the break down, the needle on the high. And grooving with the rhythm of a break of the shot.
Rock team and hit the horse, drinking a wee brew. Never wanna go to school when that's a fact. So all of a sudden, you got left back. Now you're feeling real low, it mighty hurt. And your friends are snapping on you like you're a jerk. Now things are hard, and you're feeling depressed. And your mind can't function, cause you can't pass the test. You're saying to yourself, what can I do? I can't go home, I might as well quit school. Charges are hard to find, everybody knows. And you can't do crime, cause you're on parole.
Et rebonjour à tous, vous êtes toujours au Théâtre de la Gamelle. Et donc nous recevons aujourd'hui beaucoup de gens. Le Théâtre Parker, qui est la troupe du comité d'entreprise d'EDF, ainsi que Janine, qui est du collectif Charpène Tonkin, pour Télé Tonkin, qui vont nous parler de leur projet. Donc bonjour à tous, bonjour Gilles, bonjour Janine, bonjour Denis, bonjour Pierrette, bonjour Marie-Lise.
Bonjour.
Alors Gilles, parlez-nous un peu de votre groupe.
Alors, on est la troupe du comité d'entreprise EDF. On existe sur Lyon depuis 27 ans et nous en sommes à notre 64e production, qui est donc Royal Academy, une comédie loufoque écrite par Claude Monteil. Claude est bien connu des Lyonnais puisqu'il anime le théâtre de la Croix-Rousse qui s'appelle Théâtre Instant T. Mm-hmm. Il écrit beaucoup pour ses acteurs et il est publié. Alors, on est tombé dessus et avec la troupe qui est forte d'une cinquantaine d'adhérents, et donc une vingtaine se sont collés à cette comédie et qui nous a fait grand plaisir.
Très bien. Et donc, vous êtes venu avec Janine ?
Alors, on a amené Janine, puisqu'on va jouer ce dimanche pour le comité Téléthon de Charpène Tonkin.
Très bien, bonjour Janine.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ?
Notre collectif Charpène Tonkin a vu naître son jour il y a 10 ans. Mmh. Donc nous sommes un groupe de 12 personnes qui depuis septembre s'activons pour préparer plein de petits objets, plein de répétitions de tous ordres, et de là nous avons préparé demain notre grande journée sur le gymnase du Tonkin. Journée qui va se situer entre 9h et 18h, avec plein de défis sportifs, des défis musicaux, des défis kermesse. Mmh. Et également autour de l'espace Jean Monnet extérieur, où là un grand relais sportif va avoir lieu, c'est-à-dire une course, et nous espérons vainement courir 3617 km, d'où le 36-17.
Très bien. Et au niveau du théâtre ?
Alors, au niveau du théâtre, bien évidemment, dimanche après-midi à 16h30, les portes s'ouvriront pour un grand public qui, j'espère, viendra nombreux, et pour admirer et entendre la troupe du Théâtre Parker qui va nous interpréter Royal Academy.
D'accord, donc c'est vous qui avez fait appel à cette troupe-là pour...
Nous avons fait appel au Théâtre Parker puisque je pense que c'est la 5e édition qu'ils nous font, donc ce sont des gens qui commencent à être connus sur le quartier.
Très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de la pièce, du coup ?
Alors, la pièce est une pièce d'une profondeur insoutenable, comme la légèreté de l'être de Kundera. Donc, c'est une pièce écrite en 2007 par Claude Monteil, comme je disais, qui raconte les malheurs de Moa Ier, le roi du grand Mounouf, du Mounouf réunifié, que j'ai l'honneur de jouer, et qui veut absolument faire la couverture des journaux et qui n'y arrive pas parce que son ennemi juré, le prince du gros caillou, lui a piqué la couverture. Alors, de fil en aiguille, eh bien, il décide de marier son fils Moa II, un grand dadais en face de moi, mais qui est vraiment un grand dadais dans la vie aussi, donc il joue ça très très bien.
Donc joué par Denis, si j'ai bien compris.
Ouais, voilà. J'essaie de le marier, c'est très dur. Je suis flanqué à ma gauche de ma reine, ma reine, et à ma droite de la nourrice, qui a nourri très mal d'ailleurs ce grand dadais que j'ai beaucoup de mal à marier. Alors comme c'est...
J'ai bien profité quand même.
Oui, t'as bien profité, hein, voilà. Le lait de la nourrice en particulier. Alors donc, c'est une comédie, on l'a agrémentée de 4 chorégraphies d'une minute chacune, avec 4 chants. Et la pièce dure 1h21 exactement. Et ça a été joué à l'acte 2 du 11 au 22 octobre.
D'accord.
Et ça a été un bon succès, puisqu'on a eu plus de 600 spectateurs qui ont bien ri et qui ont laissé beaucoup de commentaires sur notre site.
Très bien. Alors peut-être le mieux c'est de lire quelques extraits, comme on est une émission
de
lecture radiophonique. Donc je vous laisse la place pour une lecture du texte.
Voilà, donc c'est la première scène où le roi et la reine se lamentent. Je commence.
Surtout le roi.
Oui, la reine aussi. Bon. J'enrage, je suis au désespoir. La rage m'étouffe, je suis mort. Le roi, c'est moi.
Je suis moi premier, roi du Monouf, roi du bas Monouf, roi du Monouf du milieu, roi du Monouf réunifié. Ah, ma tête, garde à moi premier, garde, je me meurs.
Le roi se meurt, vite.
Ah.
À l'aide, au secours.
Ah.
Vite, le roi se meurt pour la quatrième fois cette semaine.
Cinquième.
Pour la cinquième fois. Cinquième, en êtes-vous bien sûr?
Ah, je suis sûr.
Cinq fois tout de même, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop?
Le roi meurt quand il le désire, et autant de fois qu'il le désire, le roi est le roi. Et qui est le roi?
Moi.
Non, pas vous, mais moi. Et qui est moi?
Vous.
Non, pas vous, mais moi. Pourquoi je suis moi? Je vais vous le dire. Parce que moi, je suis le moi premier, le premier roi du grand Monouf, du Monouf réunifié par moi, à genoux.
Moi?
Oui, vous.
Non, pas moi, moi.
Moi premier.
Moi premier, je suis maintenant encore votre femme.
Laissez Moa réfléchir.
Allons, Moa, je suis bien encore votre femme.
Vous?
Oui, moi. Qui d'autre que moi, Moa? Mon moi premier, mon petit moi, mon moi adoré.
Ah, oui, vous l'êtes encore.
Alors je suis encore reine et la reine ne s'agenouille pas devant son moi, fût-il premier.
Ah, je me meurs. Je me meurs et personne n'accourt. Ah!
À force de crier au loup, vous mourrez seul, abandonné de tous.
Jamais! Je suis le roi, merde!
Et pourquoi vous mourrez-vous encore? Quelle est la cause de votre soudain trépas?
Vous!
Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Vous me donnez la migraine. On va arrêter là, parce que sinon, ils vont tout savoir pourquoi elle me donne la migraine.
Fais du teasing, t'as raison.
Voilà.
Vous avez un deuxième extrait ou pas?
Oui, on va laisser la parole maintenant à la nourrice et au prince. Hein?
Donc, exactement, cette scène, donc c'est la scène numéro 3 où se mettent en mouvement la nourrice et le prince. Et donc le prince ne veut pas se marier, et s'il veut se marier, s'il souhaite se marier, c'est sous certaines conditions. Voilà.
C'est une reine tout à fait secondaire, parce qu'après la première scène qu'on a faite avec la reine, le reste de la pièce n'a aucun intérêt. Tout est concentré sur mot A, premier.
Bon, alors si tu le dis. Je veux pas.
Mon petit moi.
Mais je veux pas, je veux pas.
Mon moi second.
Je veux pas, je veux pas, je veux pas.
Mon moi second, mon petit moi adoré.
Je veux pas me marier.
Mais tu dois te marier.
Mais pourquoi je dois?
Oh, mais parce que tous les princes se marient un jour ou l'autre. Enfin, presque tous.
Oui.
Et c'est... puis parce que c'est la volonté du roi.
Mais ce n'est pas ma volonté.
Oh, mais tu n'es pas roi. Tu es prince, moi second. Fils de moi premier, tu es le second, il est le premier, il est le roi. Quand tu seras roi, moi second, tu feras selon ta volonté. Mais en attendant, tu dois te marier.
Jamais!
Ah. Tout le monde se marie un jour ou l'autre.
Mais je ne suis pas tout le monde, je suis moi second, le prince du Monouf du milieu. J'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. Je veux faire un schisme, un gros schisme.
Il n'y aura pas de schisme au Monouf.
Oh que si, il y en aura un. Et un gros, une grosse sécession. Je vais me sécesser. Et si je suis roi, il en sera fait selon ma volonté.
Mais il y aura la guerre.
Oh, c'est pas moi qu'on tuera.
Eh ben, deux innocents mourront.
Mais pour moi, pour le roi, ils avaient quatre rois aussi. Ils seraient pas morts, c'est pas ma faute.
Allons, moi second. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé.
Nourrice, tu m'as pas élevé, tu m'as nourri. T'es ma nourrice, t'es pas ma mère.
Je t'ai nourri comme mon fils. Tu ne feras pas la guerre. Je te l'interdis.
T'as rien à m'interdire. Tu n'es pas ma mère. De tes interdictions, je m'en tamponne le coquillard. Je ferai la guerre et je la gagnerai. Je serai le roi de tous les Monoufiens. Et quand je serai le roi, je réhabiliterai l'autorité, la morale, le respect. Je remettrai à l'honneur le royaume, l'identité nationale. Je rendrai aux Monoufiens la fierté de Monouf. Un nouveau roi est en marche et personne, jamais, personne ne m'arrêtera.
Le même, en plus grand puis en plus bête.
Mais t'as pas le droit.
Voilà, donc c'était deux courts extraits. Donc dans la pièce, il y a d'autres personnages, on est 19. Mm-hmm. Je me permets de reprendre la parole pour parler rapidement. Donc il y a cinq princesses à marier.
Donc c'est une pastiche un peu aussi de Cendrillon, blablabla. Mmh. Et surtout de la télé-réalité, puisqu'il y a un casting dans un château, et donc il y a un meneur de jeu, et puis qu'est-ce qu'il y a comme deux personnages encore
La liseuse de boules, Lisbeth.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, les heures, les adresses?
Alors, donc, ça sera dimanche 4 décembre à l'espace Tonkin de Villeurbanne, rue Salvador Allende. Mm-hmm. Donc, c'est derrière la clinique du Tonkin. Oui. C'est à deux pas. Il y a le tram, le métro, les vélos, etc. Il y aura deux séances, donc à 16h30 pour le Téléthon et une première séance à 14h qui sera plutôt pour le théâtre. Bon, c'était un accord qu'on a entre nous. Mm-hmm. Et scoop, bonne surprise, les X premiers appels gagneront deux places pour venir nous voir jouer à 14h.
Donc il faut appeler à quel numéro?
Alors le plus simple c'est de me joindre sur mon portable dès que je serai sorti de la radio. Alors Gilles, 06 32 17 10 20, je répète, 06 32 17 10 20. Donc on offre des places aux premiers appels qui vont suivre pour dimanche à 14h.
Très bien. Eh bien, je vous remercie le Théâtre Parker. Merci Janine pour le Télétonquin. Et bonne journée. Et puis un gros merde pour vos représentations.
Merci Radio Canu.
Merci. Au revoir. Tous pour le Théâtre de la Gamelle. Nous allons, après ce petit intermède Téléthon, nous allons revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est l'auteur russe Evgeny Grishkovets. C'est un jeune auteur, metteur en scène, acteur russe qui est né en 1967 à Kemerovo en Sibérie et qui a suivi des études de philosophie russe à l'université de Kouzbass où il a fondé le théâtre Loge. Son premier spectacle en 98 s'appelait « Comment j'ai mangé du chien » et il a remporté très vite un grand succès. On l'a découvert en France en 2001 alors qu'il était déjà très 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 connu en Russie et encore maintenant quand il se produit quelque part dans des grandes salles, dans des cabarets, il fait toujours salle comble en Russie. C'est un auteur qui collabore aussi à un groupe de musique expérimentale qui s'appelle Bigoudi et ils ont sorti trois disques, il faut le savoir. En fait, juste pour dire quelques mots sur l'esthétique générale de cet auteur. Il écrit beaucoup de monologues où il est seul en scène. C'est souvent lui qui joue ses textes à la création. Et c'est des monologues qui dessinent un tableau de la vie actuelle. Avec un caractère timide et résolu à la fois, il nous fait part de ses élucubrations, dévidant le fil de son univers intérieur original, où l'on retrouve des petits bonshommes qui s'en vont à la guerre, consciencieux et appliqués avant de se faire allègrement tuer, ou ces milliers de gens qui sont assis en ce moment même sur les toilettes d'avion, qui volent dans le ciel. Grishkovets cherche quelque chose d'impalpable, de l'ordre de la sensation. Une envie folle de nous faire ressentir ce qui se passe dans la sensibilité l'espace d'une milliseconde. Cet incommunicable qu'il réussit si bien à nous faire partager. Pour revenir rapidement sur le spectacle dont nous avons parlé tout à l'heure, donc c'est un spectacle d'après le texte En même temps, un texte qui s'appelle donc En même temps d'Evgeny Grishkovets, donc qui se joue ce soir et demain soir à Vez, au théâtre Midland, à 19h30 et dimanche à 17h30. C'est au 33 quai Arloin, à Vez, dans un petit théâtre vraiment atypique, Midland, où on se sent comme chez soi, où on peut boire un verre en toute convivialité, où on peut être vraiment très près de l'acteur et partager des choses vraiment fortes. Donc, place au texte de Grishkovets. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est un florilège d'extraits de toutes les pièces de théâtre qui ont été traduites en français. Donc il y a une pièce qui s'appelle Hiver, il y a une pièce qui s'appelle Comment j'ai mangé du chien, une pièce qui s'appelle En même temps, une pièce qui s'appelle Planète et une dernière qui s'appelle La ville. Marie, je te laisse la parole.
Je n'ai jamais tenu de journal, noté mes impressions, enfin pendant les voyages. Ah si, j'ai essayé une fois et je me suis étonnée de ce que je faisais. En principe, j'écrivais ça pour moi-même et j'avais pas l'intention de le montrer à qui que ce soit ou de le publier. Je n'ai pas la prétention d'être un écrivain. Mais je sais pas pourquoi, j'écrivais justement de telle manière qu'il en résultait une espèce de style littéraire à la con. Ouais. Alors que moi-même, j'avais pas l'intention de le relire. Mais surtout, je comprenais pas qui était cette personne dont j'essayais de noter les impressions et les réflexions. Enfin, c'est une sale occupation. Vous comprenez? Dans la tête, enfin dans les pensées, il n'y a pas de mots. Ils apparaissent, les mots, seulement sur le papier, et ces mots ne correspondent à rien. Et même ce que je dis, enfin en général quand je parle, c'est pas un texte que j'ai préparé. Mais en même temps, je sais ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire n'existe pas en moi sous la forme de mots, mais d'une certaine manière, d'une autre manière. Et quand je parle, ça sort toujours sous une autre forme. Je m'étonne moi-même quelquefois de trouver certaines explications et des mots précis dans la conversation, alors que seul avec moi-même, je ne comprenais pas ça, ou c'était pas en moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette précision et cette définition qui apparaissent avec les mots. Maintenant aussi, je vais parler. Et soit je trouverai des mots précis, plus précis que mes réflexions, soit je vais m'embrouiller et je trouverai pas de mots. Simplement, je veux dire que dire des mots, enfin, bon, c'est-à-dire parler pour exprimer quelque chose de vivant et important pour soi-même à un moment donné de sa vie, c'est pas que ce soit compliqué, c'est étonnant à ce moment donné de ma vie. Mais d'un autre côté, je ne me souviens pas d'un moment après lequel tout mon mode de vie, si on peut appeler ça un mode, serait devenu une suite absurde d'actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment après lequel ce dont j'étais content ou sûr se serait brusquement transformé en objet de perplexité ou d'aversion. Il n'y a pas eu d'instant d'illumination, de vision, ni aucun autre événement fatal. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu l'instant après lequel tout a changé. Je ne m'en souviens pas de cet instant. Je ne me souviens pas. Mais je me souviens que j'étais dans un bus ou un taxi, enfin dans un véhicule qui roulait dans la ville et que j'ai vu une scène comme ça. Comme ça. Enfin, vous savez, il y a une voiture arrêtée au milieu de la chaussée, du verre brisé partout, une ambulance, la police. Personne ne s'agite plus, on mesure quelque chose. Les voitures contournent lentement l'endroit et tout le monde regarde. Quelqu'un est étendu sur la chaussée. Une femme, bien en chair, vêtue d'un imperméable clair, elle a au pied des chaussures noires, Un sac traîne à l'écart et à la manière dont ses jambes sont disposées et sont imperméables, et tout le monde a cessé de s'agiter. On comprend tout immédiatement. Et quelqu'un est debout près de la voiture, à la vitre cassée, se tient d'une main à la portière, dit quelque chose à un policier, un homme d'un certain âge qui porte un gilet coloré. J'ai vu d'autres situations semblables, entrevues, en passant. On souffle, on dit oh, « pourvu que… » et on continue son chemin. Mais là justement, ce moment, cet instant a eu lieu, où tout a changé, en une seconde, tout. Comme d'habitude, sans doute, l'homme rentrait chez lui ou vaquait ses affaires, ouais. Par exemple, il allait montrer sa voiture à quelqu'un qu'il connaissait pour savoir d'où venait le petit bruit dans le moteur, enfin, ou autre chose. Il avait la radio allumée dans la voiture ou pas, et chez lui, on n'en sait rien encore. Hein ? Le type chez qui il allait attend, mais il est là, et il parle au policier. Et ensuite, il va l'emmener à, eh bien, au poste de police, en fait. Et ensuite, beaucoup de choses. Le tribunal, la prison, peut-être. Et tous les projets qu'il avait dans la vie... C'est pas qu'ils soient reportés ou qu'ils aient changé, ils ont simplement disparu d'un seul coup. Ils ont perdu leur sens. Ils sont devenus incompréhensibles et tous les problèmes et les épreuves importants jusque-là sont devenus mesquins, absurdes. Et dans l'autre famille, un mari ou des enfants ou une mère vont se demander pourquoi leur fille, leur femme ou maman est en retard. Et ensuite, ils recevront un coup de téléphone et leur vie changera d'un seul coup. D'abord, il y aura, enfin, ce qui se passe d'habitude après ce genre d'appel, je sais pas. Ensuite, beaucoup de soucis, d'agitation, et il faudra envoyer des télégrammes, tout organiser, acheter, courir, l'enterrement, la réception. Ensuite, toutes les connaissances se comporteront après cet instant envers les proches de la femme qui était étendue sur la chaussée différemment. Ils essaieront de se conduire d'une certaine manière, comme si de rien n'était, d'être gay ou au contraire, très lyrique. Tellement... prudent. C'est-à-dire que tout va changer. Tout. Mais ce moment a eu lieu. Il a eu lieu tel jour, à telle heure, telle minute, telle seconde. Il a eu lieu. Alors que pour moi, il n'a pas eu lieu. Mais tout a changé. Même si, bien sûr, comment comparer, je n'ai pas non plus l'intention de comparer. Ce dont j'ai parlé, c'est une tragédie, un accident. Et des causes exclusivement extérieures. Alors que moi, c'est un... Enfin, comment ça s'appelle ? Une crise. Peut-être. Une période comme ça. Mais avec ces explications, on se sent pas mieux. On ne se sent pas mieux. Bon, ça y est, là, j'ai... Bon, ça y est, j'ai perdu le sens. Ou pas le sens, mais la précision. Parce que le résultat, c'est que je me plains. Ou que j'essaie d'attirer la compassion. Et c'est pas vraiment ça. Ou vraiment pas ça. En parlant d'une certaine période de crise, j'en ai fait un peu trop. Comme si j'étais moi-même médecin et que je parlais de moi patient, voilà, on a même un médecin maintenant, enfin... Mais c'est marrant à quel point les gens qui tiennent des journaux intimes peuvent s'offenser si quelqu'un les lit. Alors qu'ils sont écrits d'une telle manière, ces journaux. Les auteurs y apparaissent comme des gens tellement touchants et sensibles. Mais non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je raconte des horreurs, là. Une belle forêt magique en hiver. La fée des neiges passe. Apparaissent le premier et le second soldat. Ils arrivent en ski de fond, en rampant ou bien en parachute. Cela n'a aucune importance. Ils sont habillés en tenue de camouflage grand froid. Ils portent des havresacs et divers équipements militaires.
On n'arrive plus à plier mes doigts.
Pose ça là.
Cauchemar. Ah, quel froid de chien.
Donc, je précise la mission. Où est la carte? Nous sommes... putain... Ah ouais, nous sommes là.
Ah, oh, ça va, je sais.
Écoute, je vais te dire. Écoute bien, c'est à moi qu'on a donné les ordres. Discute pas. Au signal, on fait exploser l'objectif. Là, c'est le commutateur principal. S'il ne marche pas, nous branchons celui de secours.
C'est sérieux ou encore un foutu exercice de plus?
Minute.
Non mais c'est un foutu exercice de plus ou c'est pour de vrai? Y a que ça qui m'intéresse, moi.
Je sais pas. L'explosif est vrai. Enfin, il a tout l'air. Peu importe. De toute façon, on est bon pour planter là jusqu'au petit matin.
Je me demande si on verra quelque chose d'ici.
Mais oui, tu verras tout. Par là.
Bon. Alors ça me va.
Allez, tu t'installes. Installe-toi bien.
N'arrive plus du tout à plier mes doigts, comme s'ils étaient en bois.
Oui, oui, oui. Combien de degrés sous le thermomètre? Intéressant ça, t'as pas regardé?
Non, avec la précipitation et tout, j'ai oublié.
Il fait trop froid aujourd'hui.
Et tu l'as dit?
J'ai un truc là, je sais pas, peut-être que je suis essoufflé, j'ai mal par là, tu saurais pas ce que c'est là?
Où?
Là, ici.
Ici? Je sais pas, les reins ou...
Les reins? Les reins, c'est derrière. Ici, moi, ce que je montre, c'est là.
Ah, ici! Alors ici, c'est le foie. Tu l'as...
Je l'ai au même endroit que toi. Est-ce que tu l'as là? C'est pas plutôt ici, le foie?
Eh ben alors, je sais pas. Si tu sais tout mieux que moi, pourquoi tu me demandes?
Étrange, j'ai jamais eu mal là.
Ah, peut-être la rate?
La rate? C'est par où, la rate?
Eh ben...
Non, probablement que c'est pas ça. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est pas la rate. Dis donc, avec une rate en plus de tout le reste, je suis farci de pas mal de choses. Là aussi, je sens quelque chose. J'ai mal, c'est peut-être l'appendicite.
Ah, l'appendice est ici, je suis bien placé pour le savoir, on me l'a enlevé.
Où?
Ici, juste.
Alors c'est pas l'appendicite.
Quand est-ce qu'il va faire chaud, enfin? Difficile de croire qu'un jour il pourra faire chaud. Des fois, quand il fait froid à fendre les cailloux, tu regardes les gens passer, tout courbés dans la rue. Ils gèlent dur, la neige craque sous leurs pas, les voitures fument, la vapeur. Il y a une telle brouillasse dans l'air, ça c'est du froid. Impossible de croire que dans cette rue, là même, tu pourras un jour te balader en short, la chemise ouverte, même que le bitume sera tout fondu, que tu vas rouspéter contre le trop de chaleur. Oh, une bonne bière fraîche. Pas croyable, il fait drôlement froid.
J'ai envie de fumer.
Patience.
Je patiente.
Tiens, dis-moi, qu'est-ce qui est le pire à supporter? Le froid ou l'envie de fumer?
Arrête un peu tes conneries, moi j'ai froid et en plus j'ai envie de fumer, ça rigole pas.
Ouais. T'as vachement envie de fumer?
Lâche-moi.
Super envie?
J'en peux plus, les oreilles qui gonflent.
Tu vois, je sais ce que c'est que d'avoir sommeil, je comprends comment c'est quand on a faim ou soif, mais comment c'est quand tu as envie de fumer, ça j'arrive pas à m'imaginer. Dis donc, comment c'est l'envie de fumer, hein? À quel endroit que t'as envie? C'est dans quelle partie que ça se loge, hein? C'est dans la bouche ou plutôt sur la langue que t'as envie?
Je veux savoir... Et dans la bouche, et par la langue, et par les poumons, et comment dire, tu as aussi quelque chose dans la tête, je ne sais pas. Et ta main qui veut tenir une cigarette, et tes lèvres, c'est tout entier que ça me prend, moi, l'envie de fumer, partout. Le pire en plus, c'est que j'ai un paquet là, dans ma poche.
T'es dingue, c'est interdit.
Je sais. Quand t'as pas de cigarette, c'est plus simple, c'est plus facile à accepter. T'en as pas.
Moi, je voudrais quand même bien comprendre. Quand tu bois un coup, ça peut arriver, tu prends une cigarette, si t'es avec des gens, et juste tu recraches la fumée, sans avaler. Et puis après, t'as un goût tout aigre dans la bouche. Dégueulasse.
Non, fumer c'est vachement bon, j'aime ça. Moi, j'arrêterai jamais fumer, par exemple, tu viens de t'envoyer un bon repas le dimanche, comme tu les aimes, je sais pas, tu as déjeuné, et pour finir, tu te verses un peu de café, et tu allumes une cigarette. Et même que là, c'est permis de fumer en toute liberté, pas besoin d'aller dans l'escalier ou sur le balcon ou aux toilettes, non, juste comme ça, là, en toute liberté. C'est simplement tellement bon. Ou alors tu t'es goinfré de viande, quelque chose de bon, attention, bien épicé. Un shashlik, tu vois. En été, devant le feu. Après tu sors un bon... Après tu sors du feu un petit bout de braise et tu allumes ta cigarette avec. Tu te laisses aller comme ça et tu fumes. Ou alors tu vois, tu es énervé. Tu sors un paquet neuf, des cigarettes étrangères. Tu ouvres lentement le paquet, t'en renifles l'arôme. T'en allumes une avec ton briquet. Étranger, et c'est tout. Tu comprends? C'est tout. Ou bien alors il pleut mais tu es planqué à l'abri. Ou bien tu es à la fenêtre grande ouverte et tu fumes. Et tu souffles la fumée loin devant sous la pluie, c'est super. Ou alors tu es dans ton bain, bourré, allongé dans ton bain chaud et tu fumes. Quelqu'un frappe à la porte et toi, tu fumes. Ou alors tu n'as plus de cigarette, tu en cherches dans toute la maison, tu as la flemme de sortir pour en acheter et tout à coup c'est comme un coup de feu qui te pèterait en pleine tête. Tu te rappelles dans la poche d'une veste depuis l'automne dernier que peut-être bien qu'il en reste. Et hop, tu glisses la main dans la poche, rien. Dans une autre, le paquet, une vraie joie. Non, 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 fumer c'est super bon.
De quoi ?
Et ouais... Juste avant d'aller à une fête, tu achètes des cigarettes, des étrangères, tu en offres à tout le monde. Le lendemain, tu te réveilles le matin et tu as un goût dans la bouche, une horreur, la tête aussi. Évidemment, tu fourrages dans tous les cendriers jusqu'à ce que t'en trouves un ou deux mégots tout tordus, tout secs, mais un peu longs. Alors ça a du goût, c'est quelque chose. Mais il faut bien que tu fumes quelque chose.
Il sort son paquet de cigarettes.
Ah, t'es fou ! Juste histoire de les renifler un peu.
Le second soldat flaire l'odeur du paquet, puis sort une cigarette qu'il renifle sur toute sa longueur.
L'amour s'abat sur toi, brusquement. Tu découvres brusquement des choses étranges. Par exemple, une chanson t'énervait beaucoup parce qu'elle était idiote. Et justement, pour cette raison, on la passait souvent sur toutes les radios. Elle était chantée par une fille blonde vulgaire avec une grande bouche. Et c'était une chanson d'amour. Eh ben, tu te rends compte, tout à coup, que cette chanson est effectivement mauvaise, mais pas absurde. Et qu'en fait, elle parle de toi. Et il apparaît qu'il y a tellement de chansons qui parlent de toi. Ou encore, auparavant, certains films te semblaient affectés parce qu'ils parlaient d'amour. Et ben maintenant, tu comprends que ces films sont justes et qu'ils parlent tous de toi. Je me rends compte que tellement de films ont été tournés sur moi. Et les pièces de Shakespeare, elles m'ont toujours plu. Mais j'avais l'impression que Shakespeare avait un peu forcé le trait, qu'il avait un peu trop... Et là, tu relis et tu te dis que Shakespeare n'a même pas été assez loin. Que ça aurait pu être un peu plus fort. Il aurait dû me demander à moi. En fait, il y a tellement de musique, de tableaux, de poèmes qui parlent de moi, que je me rends compte que je suis le centre d'intérêt de l'art mondial.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, till the end of time.
Les choses sont bizarres quelquefois dans la vie. On vit une vie ordinaire et tout à coup, paf, pouf, quelqu'un apparaît. Un homme. Plus exactement, c'est toi qui es d'abord apparu dans sa vie. Et tu ne l'as pas tout de suite remarqué. Mais il a fini par apparaître. Tu l'as remarqué comme du coin de l'œil et tu n'as pas accordé d'importance. Mais progressivement, sa silhouette est devenue plus nette, plus définie. Et voilà, tu vois devant toi un homme concret. Bon. Auparavant, tu rêvais que quelqu'un allait apparaître dans ta vie. Tu ne doutais pas d'être digne du bonheur. Mais cet homme, concret et déterminé, n'a rien de commun avec l'image merveilleuse et imprécise que tu te dessinais. Maintenant, tu le regardes et tu te dis « Non, c'est pas du tout ce qu'il te faut. » Mais il fait tellement d'efforts pour se rapprocher de toi. Il essaie avec tant d'insistance de faire irruption dans ta vie. Il prend tellement de place. Il est partout. Il te retrouve à la sortie de ton travail. Il t'attend ici ou là. Il t'accompagne. Il t'appelle sans arrêt. Il se tait à l'autre bout du fil et tu comprends que c'est lui. Il prend tellement de place que tu as même peur d'allumer la télé parce que tu penses qu'il va apparaître aussi. Mais un jour, assise au café avec des amis, tu penses tout à coup « Tiens, mais où il peut bien être en ce moment ? Et pourquoi il n'a pas appelé une seule fois aujourd'hui ?» Et après, tu te dis mais pourquoi je pensais à ça ?» Et à partir du moment où tu t'es dit ça, tu te rends compte, au bout d'un certain temps, tu ne peux carrément plus penser à rien d'autre. tout ton monde dans lequel il y avait tant d'amis, d'intérêts de toutes sortes, se rétrécit jusqu'à devenir cet homme. Il ne te reste plus qu'à faire un pas à sa rencontre et tu fais ce pas. Et ensuite, tu es si heureuse. Et alors, tu te dis, pourquoi j'ai pas fait ce pas plus tôt pour être si heureuse? Mais cet état dure très peu de temps, parce que tu le regardes et tu vois tout à coup qu'il s'est calmé, parce qu'il t'a obtenu et qu'il n'aurait plus besoin de toi, il a grand besoin de toi, il s'est simplement calmé et peut continuer à vivre tranquillement. Mais toi, ça ne te convient pas. Ce n'est pas du tout ce que tu voulais, tu ne peux pas dire précisément ce que tu voulais, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Alors tu te mets à faire de la provocation, à empoigner ta valise et partir pour qu'on te retienne, pour retrouver pour un temps ce qu'il y avait au début, et on te retient, on te fait revenir, et puis on te retient plus, et tu redeviens toi-même. Et tout ça, horrible, déloyal, mais peut durer très longtemps, oui, très longtemps. Mais un beau matin, tu te réveilles et tu comprends que tu es libre, que tout est fini. Et l'intérêt pour la vie revient, tu découvres qu'il y a beaucoup de belles choses dans le monde, des choses bonnes à manger, des films intéressants, des livres. Les amis reviennent et la vie est magnifique. Elle contient énormément de bonheur et beaucoup de choses agréables. Bien sûr, pas aussi belle et forte que l'amour, mais quand même. Et tu vis. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu vis en faisant très 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 attention. Pour surtout ne pas être à nouveau emporté dans cette douleur et ces souffrances. Et tu vis en faisant attention. Voilà, en faisant attention. Mais tu continues à attendre quelque chose, à espérer. Ah, l'amour. Ça dure ou ça ne dure pas.
Quelquefois, très rarement, dans la ville où tu connais tout, où tu ne t'étonnes plus de rien, tu peux surprendre un certain moment de la journée, un moment du jour étonnant qui dure très peu de temps. C'est le crépuscule d'été. Tu peux marcher dans la ville et voir tout à coup que quelque chose a changé. C'est le soleil qui a simplement disparu derrière les immeubles, mais il fait encore clair, comme dans la journée. Mais les couleurs sont devenues plus nettes et aussi plus douces. Et puisque les montres indiquent déjà une heure avancée et que toutes nos sensations nous disent que c'est déjà le soir, les voitures commencent à allumer leurs feux de position. Et les premières fenêtres d'immeubles s'allument, bien qu'il fasse encore jour. Ce moment merveilleux dure très peu de temps. Une demi-heure environ. Ensuite, tout simplement, le soir tombe. Et puisque tout est clair et net, tu vois brusquement qu'il n'y a plus d'amour en toi. Il est parti. Mais c'est encore plus terrible que l'amour le plus malheureux. Tu découvres brusquement en toi un vide si horrible et en même temps tellement de force que tu t'envoles tout simplement au-dessus de la rue. Tu repousses le bitume du pied et tu t'envoles. Tu voles au-dessus de la ville, au-dessus des rues familières et tu ne t'en étonnes même pas. Tu te dis, vers où voler ? Voici sous toi déjà des champs, des petites villes, des villages, des églises. Il y a beaucoup de tendresse, de cafards, de tristesse dans ce paysage, mais est-ce qu'il y a de l'amour ici? Et tu cries de dessous des nuages sans espoir d'être entendu. Mais de l'amour! Il n'y en a pas! Et tu te dis, stop, stop, mais où trouver l'amour? Vers où voler? Ici, je connais tout l'Amérique, je l'ai traversé d'un bout à l'autre, alors je vole là où il y a de l'espoir, vers les régions dont je ne connais rien de concret, dont j'ai seulement entendu parler. Je vole vers l'Orient, d'abord, bien sûr, vers le Proche-Orient, mais qu'est-ce que je sais sur le Proche-Orient? Seulement ce que les informations montrent tous les jours. Et c'est justement ce que je vois, des types importants avec des barbes et des mitraillettes, et beaucoup de femmes absolument pas importantes. Ici, on dirait qu'il n'y a carrément jamais eu d'amour, mais je ne leur crie pas ça parce qu'ils se remettraient à tirer. Je vole plus loin, là où se trouvent les vestiges d'anciennes civilisations. Et voici sous moi l'Égypte. Mais qu'est-ce que je sais sur l'Égypte? Ce que je sais, je le vois. Je sais qu'il y a des pyramides, des dromadaires et le Nil. Et je ne croise que des pyramides, le Nil et des dromadaires. Mais il n'y a pas d'amour ici. Il a pris fin il y a longtemps. L'amour s'est éteint quand la dernière pyramide a été construite. C'est pour ça qu'elle a été la dernière d'ailleurs. Quant aux dromadaires, ils n'y peuvent carrément rien. Mais vers où je peux voler ensuite? Et je vole vers l'Inde. Je sais qu'en Inde ont vécu des gens ayant pratiqué l'amour tellement longtemps qu'ils ont pu écrire un livre utile à toutes les époques. C'est le Kama Sutra. Il faut que je voie ces gens, que je leur pose une question, une seule et unique question. Mais est-ce que ça avait un sens de pratiquer aussi longtemps? Mais voilà l'Inde sous moi et je ne sais pas comment ces gens s'appellent. À propos de l'Inde, je sais seulement qu'il y a des éléphants et du thé et je ne vois que des éléphants et des plantations de thé, mais je n'ai pas besoin de ça maintenant. Alors je vole vers l'océan. Sur l'océan, il y a d'énormes paquebots et les voiles des yachts. Voilà où doit se trouver l'amour. Mais je m'approche d'un yacht luxueux et je ne vois que des beautés siliconées en bikini et le propriétaire du yacht. Le propriétaire a un petit ventre rond, des jambes fines et un short qui lui descend jusqu'aux genoux et des lunettes noires. Je lui crie « Sire, vous avez des problèmes !» Et je vole plus loin. Je m'approche d'un paquebot blanc comme neige, je jette un coup d'œil par les hublots des cabines de première classe, et là, partout, des gens regardent des films porno. Et dans les cabines de seconde classe, ces films, on les réalise. Et le capitaine est debout sur la passerelle, il est beau. Je m'approche de lui et je lui dis « Sire, vous savez ce qui se passe sur votre bateau ?» Et je vole plus loin. Je vole vers l'Antarctique. Ça y est, il commence à faire froid. Et puis ce sont les premières glaces sous moi et les baleines envoient des jets d'eau. Je me pose sur la glace de l'Antarctique et je suis entouré de pingouins. Ils sont merveilleux, les pingouins. C'est vrai qu'avec eux, l'amour ne sera pas possible, mais on peut les prendre dans les bras, les caresser, les embrasser. Ils sont durs, agréables. Ensuite, on peut les remettre à leur place et ils ne s'en vont pas. Voilà, je les ai tous caressés, embrassés et il faut repartir. Mais mes semelles sont prises par le gel. Mais j'ai assez de force et je m'envole sans semelles. Je vole et voici sous moi l'Australie. Mais en Australie, il n'y a que des kangourous, des koalas et des ornithorynques. Je les survole, je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux maintenant. Et voici la Thaïlande. Là, dans les hautes tours des hôtels, se passe Dieu sait quoi. Il y a le massage thaïlandais, des litres de sperme sont déversés. Ce n'est pas non plus ce qu'il me faut. Alors je vole plus loin. Et voilà sous moi le Tibet. J'y vois des moines tibétains, ce sont des types travailleurs, ils sont toujours en train de faire quelque chose et je comprends que ce serait pas une mauvaise solution, mais pas maintenant. Et je leur crie « Les gars ! Vous êtes super! Je reviendrai peut-être vous voir, mais pas maintenant, pas maintenant! » Et voici déjà sous moi le Japon, là, dans le bruit de Tokyo. Il y a quand même une petite île de sagesse. Un sage est assis. Il regarde fleurir un cerisier. Je lui crie « Hé, mon gars, t'es super, hein, reste encore un peu là, ne pars pas, il faut qu'on parle tous les deux, mais pas maintenant !» Et voilà sous moi la Sibérie, où des trains roulent à toute allure, où il y a très peu de monde. Je me rapproche déjà de ma ville, mais par l'autre côté. J'ai survolé la moitié du monde et entre-temps, rien n'a changé. Une demi-heure environ s'est écoulée, le soir est simplement tombé, le soir concret, et une vingtaine de fenêtres se sont allumées. Mais comme ça fait du bien de revenir. Je me pose à l'endroit exact d'où je suis parti, et je sens que le bitume est chaud, je le sens parce que mes semelles sont restées en Antarctique. Alors je marche sans semelle, et là, derrière les fenêtres, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, et j'espère que tout va bien pour eux. Moi, encore une fois, je ne participe à rien. Comme à un moment donné, quand j'avais 13 ans et que je regardais les fenêtres avec espoir, mais quelqu'un, une femme, me demandait maintenant « Vous allez où, monsieur ?» Et je lui réponds « Je rentre chez moi. »
Wab do wab do we scab scabber scab scabble wee boo kaku woo boo spatsule slow the wabble will be to shabble the biggies capsule shule wab shule bee boo skikui sad woolie shadu sad boo boo giggy hold boo boos woo bee woo swap swap to so boo so bee doo sooty booty giggo goo giggy gaga goo goo giggy gi. Pop to pity Cecilia, doobity gee, shop to shop to shoop, the shoop to shoop to shop, and the shoppy shoopy 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 shoopy. Shop, 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 shoop, shopy, show, soapy, 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 sup sup we subi the babadu bibu figia. Hold on, baby. Seven of the way, give it Billy Woo. Scoot Billy Woo, Billy Woo, Billy Boo, Billy Boo, Billy Boo, Billy Boo, Billy Boo, 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 Doo, Wap, Doo, Tweet, 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 Doo, Wap, Doo, Ski, Scapty, Scapty, Scope, Oop, Skipty, Scapty, Scopey, Scopey. Ship, Shap, Boopy, Doo, Beep, Doo, Sap, Doo, Bee. Hope, No, Hope, No, Soon, No, Find, This, Kill, You, Doo, Wagak. Hop, Food, Food, Foody, Foo.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle. Nous avons fini notre petit cycle sur Evgeny Grishkovets. Donc si vous avez aimé cet auteur, nous rappelons que la pièce En même temps se joue ce soir et demain à 19h30 et dimanche à 17h30 au petit théâtre Midland qui se trouve 33 quai Arloin à Vez. N'hésitez pas à venir, vous passerez un bon moment. Nous accueillons maintenant Combor qui vient nous faire sa chronique comme tous les vendredis. Bonjour Combor.
Salut.
Salut. Et... on te laisse la parole.
Chronique paysagère. Aujourd'hui, la mise en abîme.
La connectique.
La mise en abîme.
Aujourd'hui, avec cet écho incroyable, digne de Radio Canu dans ses meilleures heures, elle est Moa et les autres, évidemment. Et il faut savoir aussi que d'autre part, Monsieur Evgeny
Grishkovets
se trouve dans le livre Guinness des records car il a écrit le plus long monologue reconnu sur la planète pour le moment. Et voici que donc je vous propose un extrait d'un monologue de 5 heures. un extrait, c'est promis, et qui s'appelle Le cirque de la solitude. C'est l'histoire, un monologue donc, d'un clone de clown. Un jour, on m'a dit, un jour que je sautais d'un pied sur l'autre à cause que j'étais à course d'idées et que vous étiez là, le nez sur vos billets, sans même un programme pour vous distraire. C'était bien vous, hein ? Je vous reconnais, ne faites pas les absents. Je vous reconnais à votre respiration. Surtout madame, là-bas, dans le fond. Un jour donc, on m'a glissé un billet entre deux parpaings du cirque. Et sur le billet, c'était écrit « Ne fais plus de numéros, tu feras des statistiques !» Sapristi. Sapristi ! Et je criais. Et tout le monde pensait que j'avais perdu ma sœur ou mon chien. Je le sais, parce que deux ou trois couronnes mortuaires sont tombées sur la scène. Et dessus, on pouvait lire « Éternuement régressif, régresse éternelle et excrétion de mes sentiments les plus vifs. » J'en étais vivement touché, moi aussi. Et ce furent des secondes de communion qui ne s'oublient pas avec le public. Je suis vite allé me faire baptiser en sortant de scène. Bref, exécuter des statistiques. Voilà le conseil qui me glissait de l'oreille du mur. Oui, je commençais à comprendre encore. Au lieu de bêtement m'accrocher à mon obsession, qui est, comme vous le soupçonnez, de m'agripper à ce trapèze, ici haut, et de voir la mer de là-haut, au-dessus de vous autres, désormais, ma performance serait d'évaluer les possibilités éventuelles de parvenir à me soulever jusqu'à l'imagination, de me suspendre dans l'hypothèse où le support parallépipédique serait lui-même en possession d'un moment de torsion adapté à mes propres possessions, d'un moment et charge de torsion adapté à mes propres mensurations, taille, poids et charge de rancune inerte. Et depuis, on me surnomme le père Hockey. Ou, plus loin, Kay. Certains, plus malins que d'autres, il y en a toujours un pourcentage certain, ont ajouté sur glace, ce qui, dans leur esprit, accroît le caractère transitoire et, pour tout dire, aléatoire de mes conclusions et constats. Je dirais que ces petits coquins, des cancres, sans aucun doute, des cancres mous, ne se doutent pas qu'ils confortent ainsi ma passion du lisse. Comme une eau parfumée à l'eau de Cologne, un champignon, un fessier de jument, rien n'est plus lisse. Alors, dès ce jour, toute idée de numéro, toute pression du nombre, tout ce graphisme biscornu de la calculette fut retranché derrière la virgule. Et je le ferai aimablement remarquer à ma clientèle que l'acception virgule doit son origine et sa source dans le concept de verge, dont il est le charmant diminutif, que les écoliers se mettent en bouche sur les ordres d'une maîtresse concupiscente. 32% des vélos ont 4 roues, 1% une seule, 20% des panneaux sont indicateurs. Je suis tombé dans 0,07% de ceci. Ce qu'il y a de réconfortant quand on travaille dans un institut de sondage, c'est qu'on se rend compte que, quand même, on ne se rend pas compte du taux de chance dans lequel nous baignons pour nous coucher la plupart du temps identique, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, mais enfin, identique à celui que nous étions en nous levant, du pied droit. Même orteil, même genou, même bijou, même repli, même aisselle, même cou, mais oui, même graisse. Seulement, on n'est jamais sûr, pour le coup, et la graisse. Moi, je déconseille de dormir entre des miroirs. Pour des fois qu'on tomberait sur l'exception qui fait qu'au matin, on n'est plus nous. On s'assoit, on s'essuie les yeux, on prend les lunettes, on s'avance, on arrache les draps. Merde ! C'est plus moi, dis donc ! Ça vous est déjà arrivé d'être sauf ? On croit d'abord que le miroir déconne, on change les piles et tout. Et non, on finit sous les piles des ponts. Après avoir vérifié l'indifférence bourrue de nos amis qui ne nous reconnaissent plus, qui ne nous ont pas écrit comme par hasard aujourd'hui. Et les chiens nous pissent dessus en nous prenant pour des rêves berbères. Il ne reste plus qu'à prendre les désirs des autres pour des réalités, et plouf. Encore un noyé. On cherche son identité. Voici sa photo. Toute personne, etc., etc. À partir de ce moment-là, les appels fusionnent sur notre répondeur, les amis ressuscitent, la ville entière se met en deuil et respecte une seconde de silence toutes les heures. Mais, coup de théâtre, sous la couronne mortuaire qu'on soulève pour un dernier salut, ça n'est pas le roi d'hier, ça alors. Le vivant et le mort n'ont pas la même identité, ils portent le même short, ils ne se sont jamais connus, jamais croisés. On crie au scandale, on rappelle les contretemps atroces dus à la malveillance ou au manque de PQ qui ont abouti à des retards de 27 ans dans la distribution du courrier et on se dit qu'il aura fallu l'espace d'une vie pour que ce gars, tout gonflé d'eau et vert, accuse réception de sa véritable identité que personne parmi ses proches n'avait soupçonné et qui peut-être fut à l'origine de son saut périlleux par-dessus la rambarde du pont. N'achetez plus de miroirs. Ou alors des glaces sans teint. Les commerçants l'ont compris depuis des lustres. Ils ont la hantise de leur reflet, leur image carnassière, et ils infligent à leurs clients cela même qui les horrifie tant. Et non content de ravaler la face de ceux qui tombent soudain devant l'image de leur aliénation, cette outre systématique, dans un miroir poli, ces vicieux se posent le cul sur une chaise, de l'autre côté, juste en face, spectateurs des décompositions fulgurantes de ceux qui payaient pourtant toujours contents, leurs gentils commerçants qui les aimaient tant. C'est même là que ces vandales assassins chuchotent au marchand. Lui, derrière l'étal, c'était prémédité. Vends-lui du fond de teint, ou une perruque, ou un masque à gaz. Le client, désemparé, se barbouille d'un sourire, se colle la perruque sous le nez et le masque à gaz en casquette, ressort blafard de la boutique des horreurs dont la visite marquera pour lui le début du commencement de la fin du terme du bonheur. Il y a des lieux comme ça, on n'en ressort jamais comme on y est entré. Ça m'est arrivé en sortant du ventre de ma mère. Et aussi le jour où j'ai mis les pieds ici, sous ce chapiteau, le reste a suivi. Je ne sais pas dans quel état j'en sortirai, processionnant à l'enterrement de mes pieds verticaux. Je suis tellement retourné quand j'imagine qu'il faudra que je conçoive d'envisager de cesser de faire monter ce mur de briques jusqu'à refouler l'air à la frontière de ma piste, qu'il m'arrive de déposer les armes et de me laisser dévier vers l'objet de tous mes scrupules et soliloques. Je veux dire que, quoi que j'ajoute à mes statistiques vivantes et fidèles à la réalité, qu'est-ce que vous voulez ? Bah, j'aime le trapèze. Personne.
Merci, Combor.
Nous sommes un peu en retard. C'était l'émission Le Théâtre de la Gamelle, proposée par la compagnie Les Montures du Temps. Si vous voulez nous contacter pour proposer des lectures, des sujets d'émission, parler de vos projets, vous pouvez nous trouver sur le site de la compagnie Les Montures du Temps. Et vous pourrez aussi trouver les rediffusions des émissions. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir, merci David, merci Marie-Laure, merci Combar,
merci
Ariana. Au revoir.
Je suis pas musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.